Vous écoutez, on lit pour vous.
Les faces cachées des ordures. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 12 septembre 2024 dans la presse. Un éboueur décrypte son monde. On lève le nez sur eux, tout comme sur les déchets qu'ils collectent. Ils passent dans votre rue en un éclair, à tout rompre. Et comme par magie, la voici débarrassée de ses ordures. Un des acteurs de longue date du monde des vidangeurs décrit leur réalité dans un livre des plus surprenants qui vient tout juste d'arriver en librairie. Moi, j'ai été à l'école, j'ai pas besoin de faire ça. Tu n'as qu'à aller à l'école. Cette phrase cinglante a été lancée à Simon Paré-Poupard par un résident montréalais se plaignant de son travail, effectué en hiver dans des conditions éprouvantes. L'éboueur lui avait alors proposé de le remplacer pour une journée. Telle fut sa réponse. Le souci, c'est que M. Paré-Poupard en a passé du temps sur les bancs étudiants, dévorant psychologie, littérature et gestion, avec une maîtrise à la clé. Mais pour lui, courir, ramasser, nettoyer, nourrir les insatiables camions Ben reste une vocation. Et il en présente les raisons dans son tout premier ouvrage, Ordures. C'est presque un monde parallèle qui s'y trouve dépeint, en marge d'une société préférant ne pas trop s'attarder sur ce microcosme souillé et ces travailleurs dédaignés, eux qui assurent pourtant un service toujours plus essentiel dans un univers surconsumériste. Pour le décoder et le rendre intelligible aux yeux du grand public, les atouts universitaires de l'auteur, combinés à 20 ans d'expérience de terrain, forment une passerelle improbable et éclairante. Une tâche de documentation qui ne coulait pas de source aux yeux de M. Paré-Poupard, mais qui est apparu nécessaire au fil de ses études, notamment sous l'impulsion du philosophe Alain Deneau. Simon Paré-Poupard témoigne. « Je n'avais pas l'impression que les vidangeurs vivaient quelque chose d'atypique. Mais quand j'ai commencé à en parler à des gens qui ne sont pas du milieu, notamment pendant ma maîtrise, je pouvais voir leurs réactions et lire leurs surprises. » Alain Deneau avait les yeux grands ouverts. En sociologie, c'est la position de l'étranger qui nous fait réaliser que l'on touche à quelque chose de peu courant, poursuit l'auteur. Des Hercules incongrus. Au-delà de son expérience personnelle, débutant par des cadences infernales et des conditions éprouvantes, sous les injonctions de son père, lui psalmodiant « Fais un homme de toi », il dévoile les rouages insoupçonnés de ce secteur en mutation, le recyclage, le compost et l'incursion des entreprises étrangères sont venus rebrasser les cartes. Ses codes et ses façons de faire, pas toujours propres, certains tirent en profit de la propension à l'endettement de leurs employés, mais surtout, ces protagonistes truculents, oscillant entre le lutteur héroïque, au surnom savoureux, Spandex, la légende, beau jeune homme, et l'ouvrier à la gueule cassée, broyé par la machine sociale. Simon Paré-Poupard, héritant du Quolibet, le psychologue, il est également intervenant psychosocial, a su tirer profit du lien créé avec ses homologues éboueurs. « C'est sûr que j'ai un profil atypique, dit-il. Mais on en trouve d'autres un peu étranges, sympathiques, qui ont des vies éclatées et se sont retrouvés là. Je pense à un ami qui a un bac en musique, devenu enseignant, puis s'est dit qu'il préfère ramasser les vidanges que subir la façon dont l'éducation nationale le traite. » L'un des attraits d'Ordures demeure le décryptage sociologique et le regard critique sur le milieu faisant appel à des anthropologues s'étant penchés sur la question de la gestion des déchets, comme Zygmunt Bauman ou Michaela Lemeur. Le monde des vidangeurs n'est pas simplement décrit. Il est passé au crible, perçu comme une des dernières conditions ouvrières du 21e siècle. En outre, l'auteur y voit un levier de réinsertion sociale pour des travailleurs au parcours chaotique. « J'ai plein de collègues, dit-il, qui sont passés par 5 ou 6 familles d'accueil, me racontent des histoires d'une tristesse incroyable. Je ne les juge pas, au contraire. Je trouve que le milieu est une forme de réinsertion sociale, car il y a beaucoup d'acceptation pour cette différence-là que l'on ne verrait pas ailleurs. » Déchets, liberté, solidarité. Une autre facette méconnue reste les avantages procurés par le métier, notamment une forme de liberté et une relative marge de manœuvre découlant d'un système de contrat. On est un peu des mercenaires, indique M. Paré-Poupart. Tu revendiques ton droit par toi-même et tu es capable, par ta force de travail, de dire à un boss « Je t'emmerde et je m'en vais voir le prochain ». Ce n'est d'ailleurs pas une légende. Les éboueurs peuvent confortablement gagner leur vie s'ils gèrent bien leur flûte. L'auteur n'a pas voulu s'avancer sur des chiffres, la fourchette de rémunération annuelle étant très fluctuante, mais évoque des salaires comparables à ceux dans la construction, voire un peu plus. L'ouvrage aborde également la mutation des profils dans le métier au fil du temps, avec l'intégration de plus en plus de minorités culturelles mettant en lumière une spécificité québécoise. Au Québec, il y a une 20aine d'années, c'était tous des Blancs francophones. Je sentais que c'était un milieu fermé. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'immigrants, pas de diversité. Or, c'est complètement l'inverse, parfois en Amérique du Nord ou en France, où on laisse les nouveaux arrivants faire ce travail parce que les locaux ne veulent pas se salir, constate celui qui estime à un quart la proportion des éboueurs aujourd'hui occupés par des immigrants à Montréal. Même s'il y a des barrières linguistiques, il y a dans le monde des vidanges une grande solidarité de classe face à la tâche. Bien qu'il n'ait aucun regret de son choix professionnel, l'auteur déplore cependant que la voix et les commentaires des travailleurs soient jetés à la corbeille alors qu'il y aurait beaucoup à en tirer. À l'ENAP, où j'ai étudié en gestion, c'est une des premières affaires qu'on apprend, sonder le terrain avant de mettre en place une politique. Mais moi, comme vidangeur, je me suis fait traiter comme une merde toute ma vie et on n'a jamais voulu nous écouter, moi ou mes collègues, dit-il. Pourtant, à l'université, j'apprenais qu'on aurait dû le faire. Les vidanges vous parlent, écoutez-les. Les éboueurs filent et n'ont pas le temps de converser avec les résidents. Plusieurs interludes d'ordures abordent le langage des poubelles, c'est-à-dire des messages laissés par les travailleurs aux citoyens nonchalants, comme un bac laissé sur une auto ou un sac renvoyé sur le terrain de l'envoyeur. Les résidents peuvent se plaindre envers les éboueurs, mais jamais l'inverse. D'où cette communication informelle, à savoir déchiffrée. C'était « Les faces cachées des ordures », un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 12 septembre 2024 dans la presse.
Néo Chips, la personnalité multiple de l'ananas. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 9 septembre 2024 dans la presse. Selon une étude récente de Nielsen, Les consommateurs sont toujours friands de grignotines, mais veulent des produits moins sucrés et sont prêts à payer davantage pour des collations plus saines. L'innovation. Au départ, l'idée était de travailler en lyophilisation pour sauver des aliments qui allaient être jetés. En faisant ses recherches, l'ingénieur Jérôme Perron a réalisé la part importante de l'ananas dans les déchets des supermarchés qui le vendent sans son écorce. Sauf que la moitié de cette matière résiduelle peut être récupérée. Ça fait beaucoup d'ananas destinés à la poubelle. Poussant plus loin le principe de l'économie circulaire, le concept des néo-chips est de récupérer les fruits, de les transformer en collation et de les retourner dans le commerce d'où vient l'ananas. En partie, du moins. Lorsque cette boucle complète est possible, l'échange se traduit aussi sur le plan de la transaction par un système de rétribution. Le marchand partenaire qui entrepose et gère ses restes de fruits reçoit un crédit sur les croustilles qu'il commande. Qui? C'est Ellipse Conservation qui est derrière le concept et le produit. La petite entreprise a été fondée à Rimouski il y a un peu plus de 3 ans par Sophie Bélanger et Jérôme Perron qui avaient alors une pâtisserie. Lorsque cette aventure s'est terminée, les jeunes entrepreneurs avaient envie de lancer un nouveau projet, mais avec une mission. Pas de sauver le monde, mais au moins de sauver quelques fruits. La lyophilisation est le point de départ du projet, explique Jérôme Perron, qui précise que les entreprises qui s'y intéressent se multiplient très rapidement, alors qu'elles étaient très rares au Québec au moment de la fondation d'Ellipse. On était parmi les premiers à adopter ici cette technologie dans l'optique de réduire le gaspillage alimentaire, assure Jérôme Perron. La texture est un peu poudreuse, mais la lyophilisation concentre le goût. Le procédé congèle le fruit et sublime son eau plutôt que de l'évaporer. On passe directement de glace à gaz plutôt que de passer par l'état liquide de l'eau, détaille l'entrepreneur. Ce qui fait qu'on ne perd pas de volume et qu'on arrive à enlever plus d'eau et donc à concentrer les saveurs sans ajouter de chaleur, sans dénaturer quoi que ce soit de l'aliment. Le produit. Il y a un an, Ellipse a lancé Neo Chips. L'ananas représente autour de 90 % des fruits récupérés par l'entreprise. La petite fabrique exploite 9 lyophilisateurs qui ont une capacité de 2 tonnes par année pour chaque machine. L'idée est de rapidement augmenter cette capacité de production. Les défis. Pour un ingénieur devenu sauveur d'ananas, le plus grand défi est la commercialisation. Surtout lorsque l'on parle d'un produit ayant un trouble de la personnalité multiple. Il faut faire comprendre ce qu'on est, dit Jérôme Perron. Les détaillants ne savent pas où nous mettre non plus, poursuit-il. Entre le rayon des fruits et légumes, des croustilles, des produits naturels, le choix n'est pas simple. L'avenir. Les entrepreneurs ont déménagé du Bas-Saint-Laurent à Saint-Hyacinthe pour avoir accès à un plus gros volume de retail d'ananas. Les prochains mois vont être consacrés à faire reconnaître leurs produits afin d'éventuellement élargir leur distribution. Neo Chips, a aussi opté pour un emballage coloré qui permet de se distinguer sur les tablettes. On veut travailler sur la notoriété de la marque, dit le cofondateur, pour faciliter l'entrée dans les enseignes. C'était Neo Chips, la personnalité multiple de l'ananas. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 9 septembre 2024 dans La Presse.
En Pennsylvanie, l'avortement est toujours légal, mais restreint. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir. En Pennsylvanie, bien avant que la Cour suprême ne vienne invalider l'arrêt Roe versus Wade en 2022, une série de mesures était en vigueur afin de limiter de façon plus subtile l'accès à l'avortement. Et cela fonctionne malheureusement trop bien, déplore une responsable de la plus ancienne clinique d'avortement de cet État du nord-est des États-Unis. Le paysage est très chaotique d'un bout à l'autre des États-Unis et on voit un peu de tout. La Pennsylvanie se trouve quelque part dans le milieu. C'est-à-dire que l'avortement reste légal, mais est lourdement restreint. Et c'est le cas depuis des années, bien avant le jugement de la Cour suprême de 2022, affirme d'emblée au Devoir Roxane Sutokai, directrice de l'engagement communautaire à la clinique Women's Center de Philadelphie. Elle assiste, bien malgré elle, à une lente détérioration de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse qui s'explique par les nombreuses restrictions adoptées en catimini dans les dernières années. C'est comme si c'était accepté de dire qu'on peut restreindre l'avortement tant que ça reste légal, dénonce-t-elle. Tous les avertissements, les cloches et les sirènes ont commencé à se faire entendre quand on a commencé à rendre l'avortement illégal au pays. Mais si tu es pauvre, si tu vis dans une région rurale de la Pennsylvanie, l'avortement était déjà quelque chose d'inaccessible pour toi, donc ça aurait aussi bien pu être illégal et ce bien avant l'arrêt Dobbs. Une période de réflexion obligatoire. Parmi les nombreux obstacles imposés par l'État de la Pennsylvanie, il y a la période de réflexion obligatoire. Les femmes sont tenues par la loi de se présenter devant leur médecin afin que celui-ci leur lise une déclaration et d'attendre 24 heures avant de pouvoir se faire avorter. C'est une loi très paternaliste qui suppose que les personnes qui veulent avorter ont besoin de prendre leur temps et d'y réfléchir. C'est très stigmatisant, lance Roxane Sotokai, enlevant les yeux au ciel devant son écran lors de l'entrevue qui s'est déroulée par vidéoconférence en avril 2024. Les autorités ont adopté la plupart des règles en vigueur sous prétexte de mieux protéger les femmes, mais dans la réalité, ce ne sont que des barrières. Elle cite en exemple les nombreuses obligations réglementaires auxquelles doivent se soumettre les cliniques d'avortement. On va les obliger à avoir des murs d'une certaine hauteur, des salles d'intervention d'une certaine grandeur, des choses comme ça qui n'apportent rien sur le plan médical, mais qui font en sorte que ça coûte extrêmement cher d'offrir ces services. Certaines cliniques ont dû fermer, explique-t-elle. D'autres ont reculé avant même d'ouvrir leurs portes, car elles refusaient de transférer la facture aux patientes afin de ne pas limiter davantage l'accès à l'avortement pour celles qui ont peu de moyens. En effet, la Pennsylvanie interdit le recours à Medicaid, un programme gouvernemental d'assurance qui couvre les frais médicaux des personnes à faible revenu pour une interruption volontaire de grossesse. C'est une façon très efficace de restreindre l'avortement, déplore Mme Sutokai. Cette loi est actuellement contestée devant les tribunaux de l'État. Des barrières pour le vote aussi. Dans le contexte actuel, où de nombreux États ont carrément interdit l'avortement ou imposé des restrictions encore plus sévères, Madame Sutokai constate quand même un afflux de femmes venant d'États voisins. Il y a aussi beaucoup de déplacements à l'intérieur même de l'État et surtout beaucoup de questions et d'anxiété chez les patientes. Elle se réjouit de voir que le gouverneur actuel, le démocrate Josh Shapiro, s'affiche clairement en faveur de l'avortement. Mais rien n'est jamais gagné. Surtout pas avec la possibilité que Donald Trump reprenne la Maison-Blanche. Se disant très inquiète de ce qui pourrait arriver, elle incite ses patientes à aller voter, leur rappelant qu'elles doivent être inscrites sur la liste électorale et les orientant vers des ressources qui offrent du transport aux besoins. On sait que lorsque les gens ont la possibilité de voter sur la question de l'avortement, ils sont généralement pour, dit-elle. Mais on sait aussi que beaucoup de personnes qui font face à des barrières lorsqu'elles veulent se faire avorter font également face à des barrières lorsqu'elles veulent aller voter. C'était, en Pennsylvanie, l'avortement est toujours légal mais restreint, un texte de Jessica Nadeau, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir.
Quoi retenir de 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques de Daniel Breton? Un texte d'Alexis Riopel, paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir. Depuis début 2024, les ventes de véhicules électriques ont atteint un sommet au Québec. Les automobilistes se bousculent pour mettre la main sur ces bolides avant que les aides financières ne diminuent en janvier 2025. Ils ont fait immatriculer près de 34 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en 3 mois, un record au Québec. Parallèlement à cet engouement manifeste, une avalanche de mythes et de demi-vérités continue de déferler dans l'espace public, écrit Daniel Breton, ex-ministre péquiste de l'Environnement, dans son plus récent livre. L'environnementaliste, désormais PDG de l'Association Mobilité électrique Canada, signe 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques publiés aux éditions Somme Toute. Son objectif? Déconstruire de fausses conceptions qui planent au-dessus de la voiture électrique. Après avoir dévoré le bouquin, le courrier de la planète vous en propose 4 bouchées particulièrement intéressantes. 1. Les véhicules électriques ne coûtent pas vraiment plus cher. Chez les concessionnaires canadiens, on trouve actuellement 50 modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables à moins de $66,422, écrit Daniel Breton. Ça paraît cher, mais pourquoi donc utiliser ce seuil de $66,422? Il s'agit du prix moyen des véhicules neufs vendus au Canada avant rabais, qu'ils soient électriques ou à essence. Depuis 5 ans, le prix des véhicules neufs est en croissance stratosphérique. L'abandon des petits modèles d'entrée de gamme par les constructeurs automobiles contribue à cette croissance. Ainsi, les véhicules électriques sont-ils chers? On pourrait répondre que toutes les automobiles neuves sont désormais très onéreuses. Pour déterminer quel modèle de véhicules électriques tombe sous la moyenne, Daniel Breton soustrait le rabais du fédéral, mais ne prend pas en compte le rabais du provincial. Le prix réellement payé est donc inférieur. C'est également vrai pour les véhicules à essence qui font souvent l'objet de rabais abaissant leur prix en deçà du prix d'inscription. 2. Les véhicules électriques peuvent désormais être rechargés très rapidement. Au quotidien, les conducteurs de véhicules électriques rechargent leur bagnole à la maison. Ils ne perdent donc pas une minute de leur temps. Mais qu'en est-il de la recharge lors de longs déplacements? Branchés à une borne rapide, les modèles les plus récents ont désormais besoin de seulement de 15 à 30 minutes pour faire passer la batterie de 20 % à 80 %. Un moment bienvenu pour se dégourdir et se sustenter, observe l'auteur. les modèles d'avant 2020 avaient typiquement besoin de 3 fois plus de temps pour la même recharge. Et les avancées technologiques promettent une recharge encore plus rapide à l'avenir. 3. Les batteries durent très longtemps. Nombreux sont les gens qui constatent piteusement que la pile de leur téléphone mobile ne tient plus la charge après 2 ans d'utilisation. Le même risque guette-t-il les propriétaires de véhicules électriques? Non, répond Daniel Breton dans son livre. Les batteries sont généralement garanties pour de 8 à 10 ans ou de 160 000 à 240 000 km. En pratique, écrit-il, elles peuvent généralement durer de 300 000 à 600 000 km. Et les batteries continuent de s'améliorer. Une durée de vie de plusieurs millions de kilomètres serait bientôt à leur portée. Le défi des années à venir sera de fabriquer des véhicules capables de durer aussi longtemps que leurs batteries, prévoit le spécialiste. Selon une analyse de 2023 citée par l'auteur, seulement 225 batteries ont été remplacées dans un échantillon de 15 000 véhicules électriques, ce qui exclut les grands rappels comme celui de la Chevrolet Bolt, dans le cadre desquels le remplacement est payé par le fabricant. 4. Les véhicules électriques sont meilleurs pour la santé respiratoire. Pas de pot d'échappement, pas d'émissions polluantes, on pourrait croire que l'équation est aussi simple que cela. Pourtant, ce serait oublier les particules fines qui émanent des pneus et des freins, un problème qui touche aussi les véhicules électriques. En fait, ces derniers sont généralement un peu plus lourds que les véhicules à essence. Leurs pneus frottent plus fort sur la chaussée et libèrent donc plus de particules. Salissent-ils davantage l'air que les véhicules à essence modernes munis d'un système anti-pollution? On oublie ici les émissions de CO2, aspect sur lequel les véhicules électriques l'emportent évidemment haut la main. Daniel Breton se veut rassurant. Grâce au freinage régénératif qui recharge la batterie, les véhicules électriques usent beaucoup moins leurs plaquettes de frein. Ils créent ainsi moins de poussière. Et puis, leur surpoids tend à s'estomper dans les nouveaux modèles, dont les batteries stockent plus de kilowattheures par gramme. Tout compte fait, on distingue déjà l'effet positif des véhicules électriques sur la santé respiratoire. Selon une étude de 2023, une baisse des hospitalisations pour des problèmes d'asthme a été observée dans les régions de la Californie où les véhicules électriques sont adoptés en plus grande proportion. C'était « Quoi retenir de 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques » de Daniel Breton, un texte d'Alexis Riopel paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir.